Bonsoir Frédéric et vous, bonjour. Nous sommes le 28 février, demain nous serons le 1er mars. Vous êtes très nombreux à nous demander pourquoi le début de cette, émission quasiment, pourquoi c'est février qui n'a que 28 jours. Franchement, quel autre mois aurions-nous pu raboter ? Janvier, le départ, le renouveau, sitôt démarré, sitôt arrêté. Les citadins le savent bien, ça rend fou. Vous avancez, plein de vie et paf, feu rouge. Vous repartez au vert, dynamique, enjoué, paf, re-rouge, et ainsi de suite. Pour vous saper votre énergie, il n'y a pas mieux. Le mois de mai alors ? Mais vous n'êtes pas bien ? Le joli mois de mai, le plus joli, le plus gai ? Si les jours avaient une valeur, ce seraient les jours de mai qui coûteraient le plus cher, comme le beurre de mai, le plus riche, le meilleur. Non, 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 on ne peut pas supprimer deux jours à ce prix-là. Juin alors ? Elle est bonne celle-là. Le jour le plus bon, le plus long, le 21, le feu de la Saint-Jean. Et bing, le 28, on ampute, en pleine fête, un bourre-pif. Juillet, août. Supprimer deux jours de vacances. Vous voulez me mettre les ducnats dans la rue? Vous trouvez qu'il n'y a pas assez de problèmes comme ça? M'écrivez pas les profs pour vous plaindre de mon humour de beauf. Je ne vous répondrai pas. Je vous ai déjà assez écrit comme ça dans ma vie, des dictées, des rédacs, des dissertes. J'ai un humour pourri, c'est comme ça. Je voudrais juste demander pardon aux bons profs que j'ai eus. Je ne vous nomme pas un par un, vous êtes trop nombreux. Septembre. Ah, on pourrait bien lui retirer deux jours à lui, mais alors au début, histoire de retirer la rentrée, justement. Octobre, bah, il y a Halloween. Novembre, ça va tout nous dézinguer les comptes avec l'Avent qui commence quatre dimanches avant Noël. Décembre, il y a le réveillon. Reste avril. Le 30, c'est la Saint-Robert. On peut pas faire ça à Robert Bobert. Imaginez que sous le choc, il n'écrive plus. Ce serait tragique. Ou alors on coupe le premier, mais personne n'y croirait. Reste mars. Allez hop, vendu. Deux giboulées de moins.
Bonjour, je m'appelle Corentin, j'ai 7 ans et je voudrais savoir pourquoi en février, ils ont appris tout 29 jours. Merci de me répondre, au revoir.
Gilles Dewec, vous pouvez répondre à Corentin ?
Alors la question de Corentin nous amène à nous demander qu'est-ce qu'un jour et qu'est-ce qu'une année ? Corentin sait sans doute que nous habitons sur une planète qui s'appelle la Terre et que cette planète tourne sur elle-même.
Oui.
Elle tourne comme une toupie, elle fait un tour sur elle-même en une durée qui s'appelle exactement un jour. Mais notre planète tourne aussi autour d'une étoile qui s'appelle le Soleil, et la durée que met la Terre à faire une révolution autour du Soleil s'appelle une année. Et maintenant, on peut se poser la question, dans une année, il y a combien de jours ? La première réponse qu'on a envie de donner, c'est qu'il y a 365 jours dans une année. Or, c'est pas tout à fait ça, et à vrai dire, il n'y a aucune raison que, quand on divise la durée d'une année par la durée d'un jour, on tombe sur un nombre entier. Le nombre sur lequel on va tomber a toutes les chances d'être un nombre à virgule.
Évidemment.
Et il s'avère que cette année, eh bien, elle dure 360,25 jours, c'est-à-dire 365 jours, un quart. Donc si on avait décidé que le calendrier faisait 365 jours sans jamais avoir d'année bissextile, sans jamais avoir de 29 février, eh bien on aurait un décalage des saisons. C'est-à-dire, chaque année, le printemps arriverait 6 heures plus tôt. Alors 6 heures plus tôt, c'est pas beaucoup, mais au bout de 730 ans, le printemps arriverait 6 mois plus tôt. Si bien que les saisons seraient complètement inversées, le printemps serait l'automne serait le printemps, l'hiver serait l'été et l'été serait l'hiver. Et donc c'est pour éviter ce décalage des saisons que nous avons décidé d'ajouter un 29 février tous les 4 ans. Alors cela dit, quand je vous ai dit qu'une année faisait 365,25 jours, je vous ai un tout petit peu menti, puisque en fait une année fait 365,2421 jours. À nouveau, il n'y avait pas de raison que ça tombe exactement pile sur 0,25. Et alors pour cette raison, tous les 400 ans, eh bien, ce qu'il faut qu'on ajoute, ce n'est pas 100 années bissextiles, comme si on en ajoutait une tous les 4, mais seulement 97. Pour cette raison, on a décidé que les siècles ne sont pas des années bissextiles, sauf quand c'est des multiples de 4. Donc ainsi, 1700, 1800, 1900 n'étaient pas des années bissextiles. 2000 était une année bissextile. Et puis Corentin verra peut-être l'année 2100. Et il faudra qu'il fasse bien attention parce que l'année 2100 ne sera pas bissextile. Notre calendrier, avec les années bissextiles, il date de l'année moins 45. Donc il date de 45 avant Jésus-Christ. Donc ça fait 2000 ans que nous utilisons ce calendrier. Au départ, en moins 45, on n'avait pas une estimation très précise de la durée de l'année.
D'accord.
On pensait que la durée de l'année, c'était 365 jours, un quart. Donc on a mis une année bissextile tous les 4 ans, sans faire attention au siècle. Et il s'est avéré qu'au XVIe siècle, eh bien, le calendrier s'était déjà décalé de 10 jours.
Ah,
si bien que l'été arrivait, non pas le 21 juin, comme c'est le normal, mais arrivait autour du 10 ou du 11 juin. Et donc, on a fait en 1582 une réforme du calendrier qui a consisté à ajouter cette règle selon laquelle les siècles, enfin 3 siècles sur 4, n'étaient pas des années bissextiles. Mais c'était pas tout, puisque les 10 jours qui avaient été accumulés pendant les 16 siècles, il fallait les rattraper. Donc, le pape Grégoire a décidé que le 4 octobre 1582, les gens iraient se coucher, que quand ils se lèveraient le lendemain matin, eh bien, ça ne serait pas le 5 octobre, mais ça serait le 15 octobre.
Dis-nous, c'était quand même des super bons calculateurs au XVIIe siècle.
Ah oui, les calendriers, pour tout un tas de raisons, sont un des problèmes qui ont beaucoup occupé les gens pendant de nombreuses années. Alors aujourd'hui, on s'en rend un petit peu moins compte parce que le calendrier grégorien est valable et correct au moins pour 10 000 ans. Donc il se peut qu'en l'an 10 000, eh bien, on s'aperçoive que le calendrier grégorien n'est pas tout à fait suffisamment précis et qu'il faudra ajouter ou enlever un 29 février pour rétablir le calendrier.
Eh ben, dis donc, il y en a des informations dans cette réponse. Stéphane Koum me dit c'est un bon client. Oui, dans notre jargon, nous appelons comme ça les gens qui nous donnent beaucoup de choses intéressantes à entendre. Vous pouvez réentendre cette réponse sur franceinter.fr à la page des petits bateaux. Gilles Dewec est informaticien, logicien, philosophe. Il a enseigné à l'École Polytechnique. Il est actuellement chercheur à l'INRIA, entre autres. Il a reçu le Grand Prix de philosophie de l'Académie française pour le livre Les Métamorphoses du calcul, une étonnante histoire des mathématiques. Jean-Pierre Mohen, lui, est docteur en préhistoire. Il était conservateur du Musée des Antiquités Nationales de Saint-Germain-en-Laye, musée que je vous recommande.
Bonjour, je m'appelle Obélix. Je voudrais savoir s'il y a des menhirs partout dans le monde ou juste en Bretagne. Merci beaucoup.
Eh ben merci Obélix pour cette bonne question. Jean-Pierre Mohen, on s'imagine toujours qu'il n'y en a qu'en Bretagne.
Ceux de la façade atlantique sont peut-être les plus anciens, effectivement. Mais autrement, des structures mégalithiques, il y en a partout dans le monde. On distingue la pierre brute, c'est le mégalithisme, et puis on distingue les sculptures. L'île de Pâques, par exemple, sont aussi des sortes de mégalithes, mais comme ils sont sculptés, on les appelle plutôt des sculptures. Alors, les mégalithes sont des éléments de construction. Ils sont bruts.
Le dolmen, c'est horizontal.
Le dolmen, c'est une chambre et la dalle de couverture est horizontale puisque elle couvre les piliers de la chambre.
Et le menhir, c'est la pierre debout.
Et le menhir est la pierre debout. Et alors, la grande découverte de ces années récentes, c'est que on s'aperçoit que les menhirs souvent possédaient des gravures, alors qu'ils étaient tellement anciennes, plusieurs millénaires, que beaucoup étaient soit effacés, soit qu'il y avait de la mousse dessus, soit voilà, il y avait des intempéries, mais avec des lumières, en particulier la nuit, on voit les différences de traitement, et puis avec aussi une attention. Vous savez, on ne trouve que ce qu'on cherche. Eh bien, dans ce cas-là, on trouve alors ces grandes figures, souvent schématiques, qui représentent soit le serpent, donc soit la femme, soit.
Donc les menhirs sont gravés.
Et les menhirs, quand on recherche de près, mais alors il faut avoir un bon œil. Et puis il faut que la pierre soit en bon état, bien sûr. Il faut qu'on ait la surface d'origine. Mais souvent, ces néolithiques ou ces préhistoriques choisissaient des pierres qu'ils connaissaient bien. Ils pouvaient faire plusieurs kilomètres pour aller chercher la bonne pierre et pour débiter la pierre qui serait la plus spectaculaire.
Alors, on va être moins ambitieux qu'Obélix. Où est-ce qu'on peut en voir en France, en dehors de la Bretagne, Jean-Pierre Mohen?
Alors, en France, on en voit donc dans le centre-ouest. Hein. On en voit aussi beaucoup dans l'Écosse, avec des quantités de dolmens. On en trouve aussi dans les Alpes. On en trouve partout en Europe, en Italie, on en trouve en Suisse, etc. Et on en trouve des mégalithes jusqu'au Danemark. Et en Suède méridionale, au Caucase, on en trouve beaucoup. On en trouve en Inde, en Corée. Et puis, il y en a aussi dans le Japon du Sud. Alors, ce n'est pas répandu d'une manière égale, mais il y a des foyers comme ça, de gens qui ont trouvé cette méthode, à la fois pour honorer leur dieu, et puis pour rendre hommage à leurs défunts. Ces grands tumulus, au fond, recèlent des caveaux, où les défunts sont l'objet de rituels avec des offrandes, avec parfois aussi des trépanations pour faire des amulettes probablement qu'on gardera sur le vivant. Donc toute une série de manipulations, de rituels, et ces pierres sont au fond le reflet de cette puissance sociale. L'un des plus grands menhirs fait 350 tonnes pour extraire ces pierres et pour les amener à plusieurs kilomètres souvent. Il faut une organisation très stricte.
Respect. Merci Jean-Pierre Mohen. Quelle chance que de pouvoir approcher un menhir. Les Causses et les Cévennes sont deux territoires du Massif central, tous les deux classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'était Jane Birkin, Didouda en 1973, parole Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg est mort à 62 ans le 2 mars 1991. Sa fille, Charlotte, sera l'invitée de Boomerang mardi prochain, 2 mars 2021.
Les petits bateaux sur France Inter.
Jean-Marc Jancovici, vous le connaissez bien, auditeur de France Inter, ingénieur, écrivain. Son site est sur le site des petits bateaux.
Bonjour, je m'appelle Colline. J'ai 8 ans et demi et j'aimerais bien savoir comment on faisait avant quand il n'y avait pas de plastique. Merci.
Bonsoir Colline, c'est bien que quelqu'un de ton âge sache qu'il y avait un temps où il n'y avait pas de plastique, Jean-Marc Jancovici. Comment on faisait ?
Alors en fait ce temps-là, il n'est pas si ancien parce que le plastique est quelque chose qui s'est fortement développé avec la pétrochimie. La manière dont on fabrique du plastique aujourd'hui, c'est en prenant une fraction du pétrole qu'on extrait de terre. Donc ce pétrole, on va commencer par le faire rentrer dans une raffinerie. Et dans une raffinerie, en fait, on sépare le pétrole en grandes familles de produits qui sont des chaînes carbonées plus ou moins longues, pour dire les choses de manière un peu technique. Et les chaînes carbonées les plus courtes qui sortent d'une raffinerie, qu'on appelle le naphtha, ça va servir à alimenter d'autres usines qui vont derrière fabriquer des plastiques. D'accord. Donc le plastique est né pour l'essentiel avec le pétrole. Avant, on n'en utilisait pas. Alors comment est-ce qu'on faisait avant? On ne fabriquait pas les objets qui aujourd'hui contiennent du plastique ou des dérivés du plastique. Alors ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits. Par exemple, quand les enfants s'habillent aujourd'hui, dès qu'ils mettent un vêtement sur lequel il est écrit poly quelque chose, vous savez, polyester, polyamide, poly machin chouette, eh bien tout ça vient du pétrole. Donc avant, on ne s'habillait qu'avec de la laine, du lin, du coton, ça grattait un peu. Tout ça n'existait pas parce que on ne pouvait pas fabriquer ces objets, tout simplement parce que la matière première ne le permettait pas. Et plus généralement, tous les objets qu'on fabriquait à l'époque, pourvu qu'ils aient déjà existé, par exemple des tables et des chaises, eh bien on les fabriquait avec d'autres matériaux. Donc à l'époque, on fabriquait les chaises avec du bois ou avec du métal, et il n'y avait pas les coussins confortablement rembourrés avec de la mousse, qui vient du pétrole, puisque c'est du plastique, recouverts de tissu synthétique, ça vient du plastique, éventuellement posés sur des roulettes en plastique, ça vient du pétrole, tout ça n'existait pas. Donc on avait beaucoup moins, par exemple, de chaises chez soi, et puis on les conservait beaucoup plus longtemps, on n'allait pas dans un magasin que je ne nommerai pas pour en changer à chaque fois qu'on a envie de changer un peu le décor intérieur. Donc on faisait des objets qui valaient plus cher, qui durait plus longtemps et qui était évidemment disponible avec une beaucoup moins grande variété que ce dont on dispose aujourd'hui. Il y a des tas et des tas de produits aujourd'hui, à commencer par toute l'électronique qui permet à la radio dans laquelle je parle d'arriver jusqu'aux oreilles des auditeurs, qui n'était pas disponible à l'époque, et surtout pas les écrans d'ordinateur, qui n'était pas disponible à l'époque où on ne pouvait pas fabriquer de plastique. Alors quand on dit plastique, en fait, au sens large encore une fois, il faut comprendre tous les produits dérivés du pétrole, et ces produits dérivés du pétrole, il y en a aujourd'hui dans à peu près tous les objets de la vie courante.
C'est incroyable. Vous vous rendez compte? Et si on ne peut plus les fabriquer, comment allons-nous faire? On va être complètement dépourvus?
On sera nécessairement obligé de se mettre un peu au régime. C'est du reste la raison pour laquelle c'est si difficile d'avancer dans les négociations climat, parce qu'on se rend bien compte que de se passer des énergies fossiles, dont le pétrole, qui aujourd'hui nous a permis d'être des consommateurs comblés, eh bien, c'est quelque chose qui est plus facile à dire qu'à faire. Parce que ne plus être un consommateur comblé, il y a un certain nombre de gens qui disent « je ne suis pas sûr que j'en ai totalement envie », même si de l'autre côté, les risques sont importants.
Eh bien, depuis l'arrivée de Jean-Marc Jancovici, je me suis aperçue que finalement, on pouvait beaucoup plus se passer du plastique que je ne le pensais. En tout cas, nous, à titre individuel, les sacs poubelles, les sacs de course, tout ça en plastique, je ne m'en sers plus. Et franchement, ça ne me manque pas du tout.
Bonjour, je m'appelle Stélio et j'ai 5 ans et demi. Je voudrais savoir comment les champignons poussent entre nos doigts de pied. Au revoir, merci.
Bonsoir Télio, t'as une voix charmante et une question pas terriblement appétissante. Docteur Sophie Gottmann, vous êtes dermatologue?
Oui.
Vous avez écrit « Vos ongles, tout un monde ». Là, il s'agit pas tellement des ongles, mais des champignons. Alors Télio, on vous demande comment ils poussent entre nos doigts de pied.
Alors, ces champignons dont il parle ne sont pas les champignons des bois, bien sûr. Ce sont des champignons microscopiques, filamenteux, qui adorent l'humidité et la chaleur. Donc, ils sont très bien installés entre nos orteils. Et en plus, ce sont des dévoreurs de kératine. Ils mangent la kératine, donc les peaux mortes. Donc, ils ont toutes les conditions réunies pour être heureux entre nos orteils. On marche sur un sol humide, la piscine, dans les saunas, les hammams, là où d'autres personnes ont marché pieds nus. Ces champignons viennent sur nos plantes, puis passent entre nos orteils et souvent également sous nos ongles.
Donc, c'est hyper contagieux.
La contagiosité interhumaine est très faible.
Ah bon?
On l'attrape en marchant sur des sols contaminés.
Et si on prend les chaussons de quelqu'un d'autre? Vous savez, comme les Suédois, quand on arrive chez eux, ils vous donnent leurs chaussons pour qu'on enlève ses chaussures.
C'est déconseillé quand on a des champignons, bien sûr, de partager ses chaussures. Mais c'est vrai que c'est probablement moins contaminant qu'un sol chaud et humide. Mais par exemple, vous vous frottez avec une serviette de bain contaminée, vous pouvez éventuellement contaminer votre peau. Mais en ce qui concerne les pieds, on conseille vraiment les tongs pour tous les endroits où d'autres personnes marchent pieds nus, ne plus marcher pieds nus, et autres mesures prophylactiques. Bien sûr, quand on sort de la douche, quand on sort du bain, on se sèche les espaces inter-orteils. Donc on passe soit la serviette entre ses orteils, soit éventuellement un petit coup de séchoir à cheveux. Il faut penser à bien sécher entre ses orteils. Toujours porter des chaussettes adaptées à ce qu'on fait. Du coton, c'est bien, mais pour courir, par exemple, non. Il faut mieux des chaussettes techniques et qui ne vont pas garder l'humidité. Bien laver ses chaussettes et bien les sécher et les changer tous les jours. Et si possible, alterner nos chaussures. Ne pas porter toujours la même paire de chaussures, ça lui permet de sécher entre-temps. Des petites mesures qui peuvent être intéressantes pour lutter contre ces méchants champignons.
Voilà, merci docteur Sophie Gottmann. Votre livre est sur le site des Petits Bateaux. Benny Sings, comme son nom ne l'indique pas, est un chanteur né irlandais. Vous connaissez le principe des petits bateaux, des enfants posent des questions, nous trouvons des spécialistes pour leur répondre.
Bon, je m'appelle Ouvel Bellion, et j'ai 8 ans, et je voudrais savoir pourquoi les hommes voudraient aller sur Mars. Merci, au revoir.
Bonsoir, j'ai pas compris ton prénom, mais j'ai bien compris ta question. Pourquoi les hommes voudraient aller sur Mars? François Forger, vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous êtes spécialiste des planètes, et Mars, c'est peut-être encore une spécialité à l'intérieur de votre spécialité.
En effet.
Alors pourquoi les hommes voudraient aller sur Mars? D'abord, est-ce que c'est vrai?
Oui, c'est vrai. Toutes les agences spatiales, à commencer par la NASA, ont le projet d'envoyer des hommes sur Mars. Et poser la question de savoir pourquoi les hommes veulent faire cela, en fait, c'est une excellente question. Pourquoi c'est une excellente question? C'est parce que explorer Mars, c'est intéressant pour plein de raisons. Mars est une planète qui est tout à fait à part dans le système solaire. Elle ressemble beaucoup, beaucoup à la Terre, ce qui fait qu'en l'étudiant, en étudiant sa météorologie, sa géologie, on apprend beaucoup sur notre propre planète. Un petit peu comme en médecine, quand on étudie les autres animaux, en étudiant les chimpanzés, on apprend beaucoup sur les humains. Mars, c'est un peu pareil pour ça. Et puis aussi, Mars, c'est particulièrement intéressant parce que on pense qu'il y a quelques milliards d'années, les conditions sur Mars étaient similaires à celles de la Terre. Il y avait des lacs et des rivières à une époque où la vie est apparue sur Terre. Donc peut-être que la vie est apparue sur Mars. C'est passionnant d'explorer Mars pour voir si la vie est apparue ou pourquoi pas.
Parce que maintenant, de l'eau sur Mars, il n'y en a pas. On est d'accord.
Non, de l'eau sur Mars, il n'y en a plus. Il y a de l'eau sous forme de glace, sous forme de vapeur, mais il n'y a plus d'eau liquide, il n'y a plus de rivières et de lacs pour faire simple. Et c'est ça qui est un peu nécessaire pour la vie telle qu'on peut l'imaginer.
Mais il y aurait des traces? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y en a eu?
Parce que dans les terrains très anciens, quand on fait de la géologie, on remarque qu'il y a plein d'endroits où on voit des rivières aujourd'hui asséchées, mais clairement qui ont été creusées par un écoulement d'eau liquide. On voit des lacs avec des strates comme ça, qui ressemblent tout à fait à des rives de lacs aujourd'hui asséchées. Alors, pourquoi c'est une bonne question de savoir pourquoi les hommes veulent y aller? Parce que y envoyer des robots, c'est une chose, mais envoyer des vrais hommes, des astronautes, ça coûte extrêmement cher, terriblement cher. Tellement cher que beaucoup de chercheurs et beaucoup de gens intelligents pensent que c'est absurde, qu'il est beaucoup plus efficace d'envoyer des robots qui, pour 1000 fois moins cher, vont pouvoir mener l'enquête scientifique. Pourquoi les hommes veulent aller sur Mars? C'est pas tellement pour justement mener cette enquête scientifique, c'est plus que ça. On veut envoyer des hommes sur Mars, tout simplement parce qu'on a envie d'explorer et que beaucoup des humains, ou je vais être plus pragmatique, des contribuables, des gens qui payent leurs impôts aux États-Unis ou en Europe, et ben beaucoup d'entre nous sommes prêts à ce qu'une toute petite partie de notre argent, des impôts, aille en fait dans le développement de missions spatiales. On va envoyer des astronautes, pas nous-mêmes, mais des camarades astronautes qui vont aller faire cette exploration en notre nom et on sera fiers, ça va nous faire rêver. Donc c'est plus vraiment de la science. La science ne justifie pas le fait qu'on aille sur Mars, mais c'est le désir commun d'exploration. C'est plein d'inspiration pour tous. Ça motive des vocations chez les jeunes pour faire des études et c'est peut-être simplement pour ça qu'on va aller sur Mars.
Un fantasme fédérateur, on pourrait dire.
On peut le dire ça comme ça.
C'est à combien de kilomètres de la Terre, Mars?
Ça change tout le temps parce que on est en orbite autour du... Mais typiquement, il faut 6 mois pour y aller si on est un astronaute ou une sonde spatiale. Donc ça varie entre 50 millions de kilomètres et 300 millions de kilomètres.
Mais 6 mois pour y aller, vous iriez, vous?
Bien sûr.
On va dire que ça fait une trotte. Merci François Forger. L'écrivain Éric Emmanuel Schmitt me disait à ce micro... Jeune, j'étais terriblement insomniaque. C'est grâce à ça que j'étais reçue à Normal Sup. Je bossais la nuit. Bien avant ce témoignage, j'enviais l'insomniaque comme l'obèse pourrait envier l'anorexique, sans réaliser à quel point ce dernier peut souffrir. Anne Le Pennec, journaliste scientifique, a écrit « Quoi de neuf sur le sommeil » aux éditions Quai. En fouillant les archives médicales et en interrogeant une dizaine de spécialistes, dont le docteur Sylvie Royan-Parola, grande prêtresse du sommeil, Anne Le Pennec nous présente les dernières découvertes sur le sommeil, et il y en a. Notre sommeil joue dans notre immunité, dans notre activité cellulaire, dans nos performances cognitives. Nous passons en moyenne un tiers de notre vie à dormir, pas de repos pour notre cœur ni nos poumons pendant que nous dormons. Tout ça n'est pas nouveau, me direz-vous, c'est juste. En revanche, saviez-vous que le manque de sommeil chez un adolescent peut entraîner un surpoids? Page 64. Connaissez-vous les avantages qu'il y a à être couche tard? Page 118. Les couches tard s'adaptent plus facilement que les autres à une suractivité temporaire ou au décalage horaire. Je suis bonne princesse de vous lire ça, moi qui fermerais volontiers le poulailler à 20h. Savez-vous que tous les animaux bâillent, sauf cette grande brinque de girafe qui par ailleurs dort très peu? Et savez-vous pourquoi au sortir de l'hibernation, que l'on soit ours ou hérisson, on a besoin de dormir un bon coup? Ça c'est page 49. Et plume sur la couette, ce livre sur sérieux et drôle, ce qui n'est pas si fréquent dans les parutions scientifiques. Quoi de neuf sur le sommeil, Anne Le Pennec? Vous pouvez réécouter et podcaster ces petits bateaux par franceinter.fr. Eliane Girard, Marjorie Devoucou, Stéphane Combe, Jean-Baptiste Audibert, Ronan Mahé et Noël Bréham, il y a de la parité au petit bateau. Eh bien, nous vous retrouverons dimanche prochain à partir de 19h30. À suivre, Jérôme Garcin et le masque et la plume consacrés ce soir à la littérature.